Compléter ce qu'on a vu sur, sur Obamacare, on va regarder quelques statistiques. Je ne pense pas que vous allez tomber en bas de votre chaise en regardant ça, non? En ayant à l'esprit un peu les objectifs qui étaient poursuivis par, par Obamacare. Là, je vis un très grave problème.
Ah, OK, c'est bon. Je ne trouvais plus mon style.
Donc, le premier tableau que vous avez, puis évidemment que l'allure d'un graphique est toujours conditionnée par... par les échelles qu'on utilise. Ce que vous avez là, c'est que c'est l'évolution du pourcentage de la population américaine qui n'était pas assurée, qui bénéficiait d'aucune protection d'assurance santé. Deux choses qu'il faut voir, c'est que avant qu'Obamacare soit introduit, il y avait une tendance à la hausse. Depuis que Obamacare a été introduit, il y a une tendance à la baisse. OK? Je vous rappelle aussi ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Ce qu'on pourrait appeler un objectif, je mets ça entre guillemets parce qu'évidemment, c'est pas souhaité, là. Mais on avait à l'esprit, quand ça a été lancé, on se disait, bon, on ne sera pas capable d'assurer tout le monde. Il y avait comme un 10 % qu'on se disait qui ne serait pas assuré. Ça va? Donc, ça a baissé quand même rapidement. Puis, on est très près de l'objectif visé, 10 versus 11. Ça va? Deuxième élément qui est intéressant de voir, c'est... C'était quoi l'impact de ça en termes du fournisseur de services ou de la base d'assurance, si on veut? Le type de régime. Donc, ce qu'on voit, c'est que à peu près stable du point de vue de l'assurance collective, donc pas de gros changements à ce niveau-là, même une légère baisse. Donc, l'idée du 50 et plus n'a pas été ça qui a été le gros succès. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ici, ce qu'on a, c'est beaucoup plus l'assurance individuelle, puis Medicaid aussi, donc les faibles revenus. Donc, les gens qui n'avaient pas d'assurance, qui étaient contraints, ce n'était pas nécessairement les gens qui travaillaient pour un grand employeur, selon les chiffres qui sont là, mais beaucoup plus les gens qui travaillaient dans une petite entreprise, n'avaient pas de régime offert ou carrément qui étaient travailleurs autonomes. Puis aussi toute la question des faibles revenus. Okay? Donc, c'est là où il y a eu des gains. Pour le reste, ça n'a pas bougé beaucoup. Évidemment qu'il y a une baisse du nombre de personnes qui sont pas assurés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est via ces deux médiums-là, c'est-à-dire l'assurance individuelle et puis Medicaid, qu'on a connu des augmentations. L'autre élément, ben, c'est de voir qui en a bénéficié.
C'est encore quelqu'un qui croit être là?
Non. Qui en a bénéficié, ben, sans grande surprise, quand vous regardez, ben, il y a une baisse au total, OK? Quand vous regardez en fonction de l'âge, vous réalisez que l'âge n'est pas un facteur déterminant. Ce n'était pas une question d'âge. Puis comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la redistribution qui s'opère à travers le système. Mais malgré ça, il y a une petite différence. Il y a un petit peu plus au niveau des jeunes et tout, là, mais ce n'est pas un facteur important. Les deux grands facteurs, évidemment, puis il y a une forte corrélation entre les deux, là. C'est d'abord, on peut le prendre du point de vue des revenus, c'est que les gens qui ont pu accéder de la protection alors qu'ils n'en avaient pas avant, c'est principalement les gens à faible revenu, OK? Puis comme je vous dis, il y a une corrélation importante entre l'origine ethnique puis le revenu aux États-Unis, de telle sorte que c'est plus les personnes noires, les personnes hispaniques qui ont bénéficié d'une protection accrue via Obamacare. OK? Donc, c'est assez typique, là, par rapport à ce qui était visé comme objectif, donc des gens qui ont des revenus plus faibles, etc., etc., là. Puis on voit que ça transcende au niveau des statistiques disponibles. Ce que vous avez à la figure 3, c'est les dernières statistiques qu'on a, c'est pourquoi les gens se disent, non, pourquoi les gens ne prennent pas d'assurance malgré tout ce qu'on leur offre, puis malgré toutes les pressions qu'on leur met. Bien, ça demeure qu'il y a deux éléments majeurs qui sont à noter. Le premier, ça va de soi, c'est le coût. OK? L'autre élément, c'est la question de la mobilité. Parce qu'un des gros problèmes qu'on avait avant, c'est que la personne avait une assurance collective à travers son emploi, mais si elle choisissait de quitter son emploi ou si elle perdait son emploi, elle pouvait, de ce fait-là, perdre sa protection d'assurance santé. OK? Donc, c'est un enjeu majeur. Puis, évidemment, bien, si elle se retrouvait un nouvel emploi rapidement, elle pouvait adhérer à un nouveau programme dans bon nombre de cas. Mais il y a toujours une question de période de non-couverture qui peuvent être associées à la mobilité. Ramenons ça à sa plus simple expression. Je change d'emploi. Je quitte mon emploi, je ne commence pas un ou d'autres emplois tout de suite pour une raison ou une autre, soit que j'en ai pas, soit que je veux prendre des vacances, bien, je peux me ramasser dans un trou entre les deux. OK? Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait, évidemment, que l'assurance individuelle plus chère que l'assurance collective. C'était le cas avant, c'est beaucoup moins évident maintenant. C'est pour ça qu'on a introduit tout ce qu'on a introduit, pour rendre l'assurance individuelle plus compétitive, à meilleur coût, pour réduire ça. Mais on s'aperçoit quand même que on demande aux gens pourquoi vous n'avez pas d'assurance. Une des raisons qu'ils donnent, c'est qu'ils viennent de changer d'emploi, là, puis de ce fait-là, ils n'ont pas de protection. OK, donc les deux éléments à retenir par rapport à ça, les coûts qui demeurent un enjeu d'une certaine façon. Pour à peu près un sur deux qui n'est pas assuré, il dit que ça coûte encore trop cher. Puis l'autre, c'est la question de la mobilité de la main-d'œuvre quand on change d'emploi, qu'est-ce qui se passe? Ça va pour ça? Dernière chose, on n'ira pas dans le détail de ça, parce que je vous ai dit, Obamacare, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, comprendre un peu comment on peut organiser un système autrement qu'à travers un système public universel. Je donne un petit peu d'informations sur ce que Trump voulait faire, puis ça correspond beaucoup à ce qui faisait partie de son programme électoral. J'attire juste votre attention sur... Mais là, on tombe beaucoup plus dans l'univers politique. Ça devient beaucoup plus un choix politique, donc c'est pour ça qu'on n'ira pas aussi loin, là. Évidemment que lui, ce qu'il préconisait, c'est le libre marché, parce que évidemment, avec Obamacare, là, Affordable Care Act, c'est encadrement du marché. On n'a pas fait d'Obamacare un régime public, mais on a encadré beaucoup le marché. Donc, lui, il dit, c'est trop encadré, il faut ramener ça plus en termes de libre marché, plus de liberté pour les individus, éliminer des dispositions qui encadrent indûment l'offre et la demande. Donc, on a vu tout à l'heure, on veut encadrer l'offre, on veut encadrer la demande. Il dit, on va trop loin là-dedans. Vous avez ici des éléments qu'il voulait retrancher. Puis, vous allez voir toutes des choses qu'on a vues. Bonification de Medicaid, les crédits d'impôt. Donc, c'est tous les outils qu'on a pris pour rendre ça plus accessible, pour etc., etc. Là. Le enrollment, la pénalité taxe. Donc, évidemment, tous des éléments qu'on a mis en place pour inciter, pour rendre ça plus abordable. Ils disent, on va trop loin là-dedans, on s'éloigne trop du libre marché, il faut laisser les assureurs agir, puis on va avoir un meilleur résultat. Disons que l'expérience jouait contre lui, parce qu'avant Obamacare, il y avait des gros problèmes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à le réformer, parce que les principes de base qui défend correspondent à ce qui existait avant, puis ça n'a pas donné beaucoup de résultats. OK? Puis évidemment, bien, à partir du moment où on a introduit tout ça, ça a amené des coûts pour le gouvernement fédéral, puis ça n'a pas de bon sens que le gouvernement fédéral mette autant d'argent là-dedans. Ça devrait être aux assureurs s'occuper de ça, puis on n'a pas à intervenir là-dedans. OK? Donc, c'est la vision politique, là, c'est carrément une vision politique, on peut être pour ou contre, là, mais ça a au moins le mérite d'être clair. J'attire votre attention sur ce qui était les fondements de son approche, puis ça a évolué. Les éléments les plus importants là-dedans, programme volontaire, donc lui il dit, allons-y, laissons les gens s'assurer que ça va marcher. L'idée approche état par état, là, c'est que, comme je vous dis, il y a des limites liées à la Constitution américaine, puis à la façon, puis ça pose certains problèmes. Mais pour les fins ici, ce n'est pas vraiment important. Il voulait donc plus une approche de crédit incitatif via la fiscalité. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est qu'avec Obamacare, on n'a pas dit on va mettre de l'argent dans le système en faisant en faire sorte que les gens qui s'assurent payent moins d'impôts. OK? Il a dit on va mettre de l'argent dans le système de telle sorte que les gens pour qui ça coûte très cher, qui ont des conditions préexistantes, ça leur coûte moins cher. Lui, il veut se retirer de ça pour simplement créer un incitatif fiscal. Alors qu'actuellement, c'est versus ceux qu'on aide, c'est les versus personnes où on juge qu'il y a un coût élevé. OK? Donc, l'argent public est utilisé différemment. Ici, c'est juste un incitatif. Prenez une assurance, vous allez payer moins d'impôts. C'est pas ça qu'Obama a dit. Obama a dit, ça vous coûte plus cher de vous assurer, on va vous aider. OK? Donc, deux approches différentes. Ça ici, là, si vous voulez établir un parallèle, là, exemple, on va voir ça plus tard ce matin, puis on va finir la semaine prochaine, via la retraite au Canada. On encourage les gens à travers des incitatifs fiscaux. Indépendamment de ce que ça leur coûte, on veut juste que les gens mettent de l'argent là-dedans, donc il y a une différence là. Les autres éléments, bon, ça va, je vais les lire, là, mais c'est, c'est des cinq principes, si on veut, là. Ici, c'est favoriser l'épargne versus assurance. On s'est dit en début de session, des fonds de prévoyance, c'est pas de l'assurance, mais si les gens épargnent, c'est... les compagnies étrangères, on veut favoriser la concurrence par des compagnies étrangères. Donc, bon, en fait, on n'ira pas trop dans le détail de ça. Retenez surtout là, l'idée de la déduction, l'idée d'un programme volontaire, puis l'idée de l'épargne, là, comme étant les éléments majeurs de son programme. Ça va-tu pour ça? Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est beau? Donc, ça fait le tour de ce que je voulais couvrir avec vous par rapport à l'assurance santé. Parce que le temps file avec tout ça aussi. Mais on commence par les gros morceaux, là, de telle sorte qu'après ça, ça va aller plus rondement. Ceci étant, on va se tourner du côté de la retraite et de la survie, en particulier de la retraite. Évidemment, quand on regarde un peu ce que les gens mettent de côté pour ou dépensent pour assurer leur sécurité financière, évidemment que la retraite, c'est un élément extrêmement important. Là, c'est possiblement ce qui canalise avec l'assurance santé là, le plus d'argent du point de vue de la protection. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce qui s'applique par rapport à notre système de retraite ici. Ça va? Vous avez des notes de cours, on va regarder ça, on va passer ça en revue ensemble, comme on le fait pour les autres. Retraite, vous avez aussi un petit, quelques petites pages là, sur la mortalité, on reviendra sur ça la semaine prochaine. En référence, bien, je vous invite à lire le chapitre 7 dans le livre de référence, puis je dirais de bout en bout parce que en actuariat, la retraite, ça prend quand même beaucoup de place, là, donc il est bon que vous passiez à travers ça. Les autres éléments qui sont là, les deux documents qui sont là, le fichier Excel, c'est un tout petit chiffrier. Vous allez voir, dans les notes de cours, vous avez un tableau Excel. On va regarder ça ensemble, mais si vous aimez mieux, puis évidemment, c'est plus efficace à bien des égards, voir les formules, comment c'est calculé, puis ce n'est pas des calculs sorciers, là. Vous avez le chiffrier qui fournit donc le détail des calculs. Puis l'autre élément, on ne passera pas ça en revue ensemble, mais c'est une brochure. J'ai extrait quelques pages, puis j'ai mis en jaune. Les éléments les plus importants, ça vous donne un exemple, encore là, de disposition d'un régime concret. Donc, je vous demanderai, une fois qu'on a revu la matière, là, vous pourrez regarder ça, ça va vous donner un exemple là, de comment ça fonctionne, comment est établi, par exemple, le montant de la rente qui est payable à compter de la retraite. Donc, vous avez 4-5 pages comme ça, puis j'ai mis en jaune ce qui était important. Comme c'est indiqué en première page, c'est extrait du régime de retraite des professeurs de l'Université Laval. C'est que si vous vous souciez de ce que je vais avoir une fois que je vais être à la retraite, ça va vous donner une idée un petit peu plus précise de ça. Là. Mais c'est pas pour ça que je vous l'ai rendu disponible. C'est parce que ça vous donne un bon exemple d'un régime de retraite dans une entreprise. Ça va pour ça? Donc, on va y aller avec les notes de cours sur la retraite. Bon, comment on va aborder cette question-là? Je dirais de façon analogue à ce qu'on a vu pour la santé, puis de façon analogue à ce qu'on verra pour les différentes branches de protection, les différents secteurs d'intervention. La seule chose qui est différente, c'est qu'on va changer l'ordre un petit peu dans lequel on va voir ça. On va commencer, puis ça, bien, ça va toujours être le cas, objectifs et mécanismes de protection. On va enchaîner tout de suite avec le système québécois et canadien, là, pour demain vous donner une vision concrète des choses. Une fois qu'on aura fait ça, on reviendra sur ce que j'appelle les éléments clés au niveau du design d'un régime de retraite. C'est quoi les principales dispositions, c'est quoi les principaux éléments qu'il faut avoir à l'esprit quand on pense à mettre en place, faire évoluer ou évaluer un régime de retraite. Puis une fois qu'on aura vu ça, rapidement, on va parler d'avenue de réforme. Trois éléments qu'on va aborder ensemble. Un qui vient d'être introduit, un qui va être introduit dans les prochaines années, rapidement, puis un qui ne sera pas introduit, mais qui, en termes conceptuels, en termes de pour la réflexion, la compréhension des choses est important. Mais c'est pas très sorcier. Donc, objectif, mécanisme de protection. Ben, vous n'en avez pas des pages, ça se résume à ce qui est là. Évidemment, quand on parle de retraite, quand on parle de régime de retraite ou d'épargne retraite, ce qu'on vise, c'est de compenser la perte de revenus associée à la retraite. Puis là-dessus, on peut avoir deux objectifs. Un, c'est de faire en sorte que les personnes âgées aient un minimum de revenus. Donc, on parle à ce moment-là, évidemment, de régime ou de mécanisme anti-pauvreté. Puis un qui est de dire, bien, on voudrait, puis c'est ce qui est souhaité en général, c'est de maintenir son niveau de vie à la retraite. Les autres éléments qui sont là, bien, en particulier ici, on parle d'une retraite sans souci financier. L'idée de ça, c'est que, évidemment, d'abord, une retraite, ça peut être long. Les gens qui prennent leur retraite aujourd'hui, puis on le verra tout à l'heure, là, autour de 62 ans, un sur deux peut espérer vivre jusqu'à 90 ans, ce qui est quand même long. Puis non seulement ça, mais c'est qu'en cours de route, ils peuvent avoir des problèmes de santé ou simplement du fait de l'âge, être de plus en plus sénile, de moins en moins en mesure de s'occuper de leurs propres affaires. Donc, quand on parle de compenser la perte de revenus, puis quand on parle de sécurité financière à la retraite, l'idée qui est importante, c'est un paiement régulier garanti. Donc, il y a des gens, vous pouvez imaginer, par exemple, une personne qui a eu son entreprise, puis qui vend son entreprise au moment de se retirer, se ramasse avec un montant important de capital. Puis il peut dire, j'ai 3 millions, j'en ai sûrement assez pour m'assurer d'une sécurité financière à la retraite. Sauf que d'avoir un montant accumulé, ça pose deux défis. Évidemment, le premier, c'est la gestion des placements. Puis ça peut être de gérer soi-même les placements, mais ça peut être aussi d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, qui va gérer nos placements. Puis vous savez, quand une personne âgée, puis on entend un scandale à gauche puis à droite, là, ça peut être une source d'insécurité importante d'avoir à gérer ses placements ou de confier la gestion de ses placements à quelqu'un. L'autre élément qui est important quand on parle d'un montant accumulé, c'est de survivre à ses épargnes. C'est sûr que la personne qui a 3 millions, c'est pas si pire, là. Mais la personne a dit, bien, j'ai un certain capital d'accumuler, puis je pense que je peux faire un bout avec ça, sauf que je ne sais pas à quel âge que je vais décéder. Puis si vous me dites qu'il y en a un sur deux qui va vivre à 90 ans, puis il y en a un sur 10, je pense qu'il va se rendre à un sur 10 ou un sur 20, je ne me souviens pas, il va se rendre à 100 ans, les gens commencent à être insécures. Okay? Donc, ça génère de l'insécurité. Donc, évidemment, ce qu'on recherche le plus souvent pour contrebalancer ça, c'est d'avoir un paiement régulier garanti. Donc, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent, mais c'est de se garantir un paiement régulier à la retraite. L'autre élément, puis on s'en est parlé brièvement déjà, la nécessité d'indexer du fait que la période paiement est long. Si vous prenez une retraite de 30 ans, et inflation égal à 2 % par année, vous coupez en deux, baisse de 50 % du niveau de vie ou de la valeur réelle. Okay? Autrement dit, si vous vivez dans un monde où ça coûte de plus en plus cher pour acheter du pain puis du beurre, puis de l'essence, puis une auto, puis des vacances, si vous avez des revenus qui ne sont pas indexés pendant 30 ans, vous êtes dans un contexte d'inflation à 2 % par année, grosso modo, votre capacité d'achat avec votre montant qui est fixe va avoir diminué de 50 % ou à peu près pendant votre retraite. Autre élément, besoin à la retraite différent de ceux de l'art de la vie active, objectif. Point d'interrogation, 40 %, 70 % ou 100 %? Point d'interrogation. On s'en est parlé, puis on va revenir là-dessus. Puis, dernier élément, différents mécanismes de protection. On vit dans un système où le public égale la base, le privé égale le complément. C'est-à-dire que les régimes publics assurent à tout le monde un niveau de vie de base, anti-pauvreté, etc., etc. Si les gens veulent maintenir leur niveau de vie, il faut qu'ils complètent avec des régimes privés. Ça va? Donc ça, tout ce qui est là, c'est en termes de sécurité financière. Un autre élément qui est important aussi dans le design des régimes, c'est la question de l'emploi des travailleurs âgés. Ça a trait aux dispositions relatives à l'âge de retraite, qui va faire en sorte qu'une personne pourra être tentée ou incitée à prendre sa retraite plus tôt. C'est des questions qui sont de plus en plus, je dirais, d'actualité d'une certaine façon. Vous n'avez pas fini d'entendre parler, là. Puis je peux vous dire, dans des conférences, on en parle souvent. Dernièrement, quand j'ai été demandé pour parler de retraite, c'était sur ces questions-là, là. Donc, c'est des éléments qui sont quand même importants. Donc, c'est ça l'idée générale en termes d'objectifs. Si on regarde maintenant notre système... On a vu ça sommairement quand on s'est parlé de la cartographie. On va y revenir plus en détail. Trois paliers, OK? Donc, des régimes publics d'assistance, OK? Que sont la PSV, un régime universel, le supplément de revenu garanti. À la base, c'est de l'antipauvreté. À la base, on parle ici... Pour un travailleur moyen, d'à peu près 15 % de son revenu. Deuxième étage, c'est le régime de rente du Québec, régime de pension du Canada. Deux régimes miroirs, un qui s'applique au Québec et un qui s'applique dans les autres provinces. À ce moment-là, ici, on parle de 25 %, c'est indiqué ici, là. Donc, on remplace 25 % des gains moyens de travail. Puis, au-dessus de ça, comme troisième étage, on a les régimes privés. Ce qu'il faut voir à ce moment-ci par rapport à ça, c'est que ça prend deux formes différentes. Un qu'on appelle des régimes complémentaires de retraite ou des RCR. Là, on parle de régimes mis en place par l'employeur. OK? C'est sur une base volontaire. Puis, évidemment, ça s'ajoute au régime public. Donc, l'exemple que je vous donnais du régime des profs, là, c'est un régime complémentaire de retraite. Ça va. C'est volontaire, c'est associé à l'employeur, plus présent dans les grandes entreprises. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Il existe des mécanismes d'épargne retraite avec incitatif fiscal. Justement, pour encourager les gens à épargner en vue de la retraite, en disant « épargner pour la retraite, vous allez sauver de l'impôt, vous allez payer moins d'impôts. » OK? Ces régimes-là, on peut les voir comme des régimes individuels ou collectifs. On reviendra sur cette notion-là. À la base, ce sont des régimes individuels, sauf qu'on peut en faciliter la mise en place avec l'aide de l'employeur. On va se donner un exemple de ça. On va se parler à la fin du chapitre, là, du RVER. OK? Donc, normalement, quand on parle d'un REER ou d'un CELI, c'est de l'épargne individuelle, c'est de l'épargne retraite. Je prends ça comme individu. Mais pour favoriser, il y a des raisons qu'on va voir qui favorisent, c'est pas juste une bonne intention, là. Si l'employeur s'implique, ça peut aider la cause. Puis, en particulier, on va donner un exemple qui est le RVER. Le RVER, c'est le régime volontaire d'épargne retraite. Donc, vous allez à la fin du chapitre, là. Vous allez voir, vous avez des notes là-dessus. Donc, ça, c'est notre système en termes de paliers. En termes d'image, bien évidemment, vous avez ici une représentation graphique. Première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on vise un objectif de 70 %. Donc, l'objectif est plus petit que 100 %. Parce qu'on dit, bien, quand les gens arrivent à la retraite, dépenses pour les personnes à charge, puis évidemment, on pense essentiellement aux enfants, ont baissé. Dépenses liées à l'emploi sont à zéro. Souvent, dépenses résidentes à la baisse si la personne est propriétaire de son unité d'habitation. OK. Mais par contre, on pourrait dire, whoops, budget de vacances. Point d'interrogation. Donc, de façon générale, ce qu'on dit, c'est que basé sur ces critères-là, on dit qu'un objectif plus petit de 100 % autour de 70 % est tout à fait raisonnable. Mais par contre, tu dis, moi, je prends ma retraite parce que je veux voyager tout le temps. Bien là, il y a des gens dont c'est le métier puis qui vont vous en parler abondamment, qui vont vous dire, les planificateurs financiers, donc qui accompagnent les gens dans leur planification financière, ils vont vous dire, c'est plus du cas par cas. Donc, des gens pour qui 70, ça va être bien assez, des gens pour qui ça va être trop, des gens pour qui ça ne sera pas assez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la règle de base correspond à l'objectif, c'est 70 %, mais évidemment, les spécialistes vont vous dire que, il faut faire attention à ces règles de base-là, on peut faire des calculs plus sophistiqués, puis ça, ce sont des planificateurs financiers qui vont vous permettre de faire ça. Élément intéressant, pourcentage égal ou plus grand que 70 % pour personnes à revenu faible. Donc, si vous regardez à gauche la barre verticale bleue, ce que vous avez là, c'est les régimes publics. Puis on voit que juste avec les régimes publics, ça suffit pour atteindre ou même dépasser le 70 %. Okay, donc, au point de croisement là, des deux droites, là, une verticale et une horizontale, quelqu'un qui est autour, je ne sais pas, 28 000 $, quelque chose comme ça, bon, on s'aperçoit que juste les régimes publics, ça suffit. Sauf que, évidemment, quand le revenu augmente, bien, d'abord, la PSV, qui est un montant uniforme, ça diminue en pourcentage du revenu. Le supplément de revenu garanti, on l'a vu, c'est réduit. Bon, puis on va le voir plus en détail. Là, un régime de revenu garanti, ça diminue quand le revenu augmente, donc il disparaît éventuellement. Puis le RRQ, bien, c'est 25 %, puis c'est sujet à un plafond à un moment donné. Donc, évidemment que ça devient non suffisant pour bien des gens. De telle sorte que vient un moment donné où il faut compléter ce qui est prévu par les régimes publics, à même avec les régimes privés, qui, eux, ne sont pas obligatoires. Donc, la composante obligatoire, ce qu'elle assure, c'est un revenu de base. Puis le revenu de base, bien, il est suffisant pour les gens à faible revenu. Mais il doit être complété par les régimes privés pour les gens qui ont des revenus plus élevés, toujours avec l'idée d'atteindre un niveau de remplacement de revenus de 70 %. Ça va? Ça, c'est la théorie. Oui?
Est-ce que c'est Mais dans le fond, là, si on regarde le petit graphique, les personnes qui sont vraiment pauvres, mettons, qui gagnent 12 000 par année, ça peut aller jusqu'à 160
%. Oui. L'idée, là, on a 70 %, c'est un, comme je disais, c'est la règle de base, qui s'applique, je dirais, à un grand nombre de personnes. Sauf que quand on parle de mécanisme anti-pauvreté, évidemment, il y a un niveau minimum de revenus qu'on doit toucher pour ne pas être pauvre. C'est-à-dire que si tu es à ce minimum-là, qui est considéré comme le minimum requis pour vivre décemment, bien là, tu ne peux pas parler de 70 %. Il faut que tu maintiennes 100 %. Tu es déjà au minimum. OK? Donc, quand t'es, pour des gens qui ont des revenus vraiment faibles, tu dis que tu ne peux pas diminuer. Parce que si tu diminues, tu tombes. Ils sont déjà au niveau du seuil. Si tu diminues, tu tombes en deçà du seuil. OK? Bien, attends un petit peu. Donc, il y a comme, pour ces gens-là, c'est un minimum 100 %. L'autre élément, qu'on pourra en débattre longtemps, c'est que par des mesures d'assistance, on ne veut pas payer des montants trop élevés à des gens qui, normalement, on s'attend à ce qu'ils puissent travailler. OK? Donc, de ce fait-là, les prestations, le niveau de revenu qui est payable avant la retraite, les niveaux minimums, par exemple, payables au titre de l'aide sociale, vont être plus bas. Par contre, quand les gens arrivent à 65 ans, on dit, bien là, la question d'incitation au travail n'a plus sa raison d'être. Donc, on peut rehausser le seuil minimum de revenus payable à toute personne. Je ne sais pas si je présente ça clairement, là. Donc, le plancher qu'on veut garantir à tout le monde, rendu à 65 ans, est plus élevé que ce qu'on veut garantir avant, parce qu'avant ça, on ne veut pas inciter les gens à ne pas travailler, alors que rendu à 65, on dit que c'est normal que quelqu'un ne travaille pas, puis aille un certain niveau de revenu plus élevé que ce qu'il y avait avant. C'est ce qui fait que pour les gens à très faible revenu, puis c'est le cas, en réalité, c'est ce qui se produit, là. Puis on va le voir d'une certaine façon, un peu avec, là, avec la CETA suivante. Il y a des gens qui ont vécu avec des revenus faibles pendant toute leur vie, puis se ramassent à 65 ans avec un niveau de revenu qui augmente. Parce que les mesures qu'ils touchaient avant 65 ans, l'aide sociale, par exemple, avait été bâti pour dire on lui donne vraiment un minimum, minimum, parce qu'on aimerait ça qu'il retourne travailler. S'il ne retourne pas travailler, bien, il vit avec ce minimum, minimum-là. Alors que rendu à 65 ans, bien, on ne veut plus l'inciter, on dit c'est normal qu'il ne travaille pas. On se permet un plancher qui est un peu plus élevé. Donc, c'est pour ça que, à la fois pour dire bien, il y a un minimum en deçà duquel tu ne devrais pas baisser, donc ce n'est pas à 70, c'est 100. Mais en plus, tu fais de l'incitation au travail, ça peut même aller au-delà de 100 %. Oui?
Qui, par exemple, travaillent pour des PME, qui
n'ont
pas de régime d'assurance collective,
Puis restent un mur. Puis en fait, on va y venir. Je vous ai dit tout à l'heure, on va voir trois actions qui ont été considérées, puis deux qui ont été implantées en termes de réforme de notre système. Puis ce qu'on vise par ces réformes-là, c'est ça ici, là. OK? Des gens mal couverts. Puis, objet de réforme. Autrement dit, ce que tu dis, c'est que dans les faits, on assure à travers un régime public un niveau de base. Pour les gens qui avaient déjà des revenus très faibles, c'est correct, là, c'est sûr qu'ils ne vivent pas riches, là. Mais par rapport à leurs revenus qu'ils avaient avant, puis ça rejoint la question qu'on a eue, ils en ont plus qu'ils avaient avant, limite, ou il y en a à peu près autant qu'ils avaient avant. Il y en a pour qui les régimes publics, ce n'est pas tout à fait assez, parce que, tu sais, ils ont un certain niveau de revenus. Puis ce qu'ils vont toucher des régimes publics va être inférieur à ce qu'ils viseraient à avoir, qui est 70. Mais comme ils n'ont pas des revenus élevés, de cotiser à de l'épargne retraite, ils trouvent ça cher. Puis comme ils n'ont pas des revenus élevés, ils n'ont pas un emploi super, bien leur employeur ne leur offre pas un régime. Donc, ils se ramassent un peu dans le vide. OK? C'est ce qu'on a voulu corriger pour prévenir que ce problème-là apparaisse dans les prochaines années, parce qu'on pouvait suivre la tendance d'épargne, etc. Puis on disait, il y a un problème qui est en voie de survenir. Si on ne vient pas renforcer d'une certaine façon la protection là, vis-à-vis ici, le cercle, là, on va avoir un problème. Des gens pour qui le régime public n'est pas suffisant, puis qui n'ont pas les moyens, soit avec l'employeur, soit eux-mêmes, de se préparer avec un mécanisme privé. On s'est penché là-dessus, on va y revenir plus tard. Ça va pour ça? Ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on vise avec le modèle. Ce que vous avez au haut de la page suivante, au haut de la page 3, c'est plus la réalité. OK? Ça date de quelques années, là, mais ça donne un bon portrait. Ici, ce qu'on a, les faibles revenus, plus grand que 70 %. Pour les raisons qu'on a mentionnées, on dit c'est OK. OK? Ici, autour de 65 %. Travailleurs revenu moyen. Donc, on peut dire que c'est près de l'objectif. Puis ici, ben, revenu élevé. On peut se questionner sur 70 %. Est-ce que c'est requis? Il y a différentes choses. C'est que quand tu es rendu un revenu élevé, bien peut-être que tu as des actifs qui ne génèrent pas beaucoup de revenus, etc. Là. Mais en général, les gens disent, bien, rendu un revenu élevé, même si tu es plus proche de 50, 55, c'est peut-être suffisant par rapport, parce que aussi avant ça, les gens épargnaient beaucoup. Avant la retraite. Donc, pour les gens qui ont un revenu élevé, ça ne veut pas dire qu'ils dépensaient la totalité de leur revenu. Donc, de leur garantir plus bas que 70 %, ce n'est pas nécessairement la catastrophe. Parce qu'ils ne dépensaient pas 100 %, ils dépensaient, je ne sais pas, 60 puis ils épargnaient 40, présentons ça simplement. De telle sorte qu'à 50, ils sont à peu près où ils étaient avant. OK? L'autre élément qu'on peut dire pour les travailleurs revenu moyen, près de l'objectif, mais futur, point d'interrogation, on s'attendait à une détérioration. C'est ce qui fait qu'on a introduit des réformes, puis je dirais de façon relativement proactive, pour renforcer la protection qui est offerte à ces gens-là. Une des raisons pourquoi on pensait que ça allait se détériorer dans l'avenir, en fait, deux raisons. Un, c'est que les taux d'intérêt ont baissé. Avant ça, il était relativement facile d'acheter des bons taux de rendement. Puis deux, les gens vivent de plus en plus vieux, là. Donc, à un moment donné, ça les met davantage à risque. Donc, quand on regarde le portrait passé, le portrait récent, une situation qui est quand même fort positive, un élément de risque à l'horizon, c'est pour les travailleurs à revenu moyen. Puis on s'est dit, on va réformer pour éviter que dans le futur, ça se détériore. Ça va-tu pour ça? Ça, c'est le portrait. Maintenant, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus historique, sans aller dans trop de détails, Année 50, on peut dire que c'est vraiment le début au sens formel du terme. Là, on introduit la PSV, donc publique, puis on introduit une mesure incitative pour l'épargne privée. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que notre système a pris son envol, parce que ce qu'il y avait avant, puis ce qui est présenté, le 1927, etc., là, c'est vraiment pour des cas limites, là. Ce qu'on avait ici, là, c'était pour des clientèles ciblées. Ça va? Élément de date très important. Une date très importante, 1966. On a introduit le RRQ, on a introduit le supplément de revenu garanti, puis on est venu encadrer les RCR avec des dispositions minimales. Ça, on n'ira pas dans le détail de ça, là, mais sachez que ça existe, là. Puis dans le livre, on en parle un peu aussi, là. Donc, on est venu encadrer ce qui existait. Donc, un employeur qui choisissait d'offrir un régime à ses employés devait satisfaire certaines dispositions minimales. Puis aussi, en plus des dispositions minimales, c'est qu'on est venu introduire des normes de financement. Évidemment qu'on a créé le RRQ, on a créé la Régie des rentes du Québec, qui devait l'administrer, puis c'est à ce moment-là qu'on a créé la Caisse de dépôt et placement aussi. Deux autres dates que je vous donne qui sont importantes. 1992, renforcement et équivalence de l'aide fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, même montant épargnés via un RCR ou via un REER. C'est qu'anciennement, avant ce moment-là, les gens qui participaient à un RCR pouvaient beaucoup mieux se préparer à la retraite que les gens qui cotisaient un REER. Puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens que si ton employeur n'en offre pas et tu es confiné ou tu es limité à avoir une protection via un REER, que tu ne puisses pas mettre autant d'argent dans le système que justement si tu avais un RCR. Puis, on a voulu hausser, donc, augmentation des limites permises dans le REER. Ça va pour ça. 98, consolidation du financement RRQ-RPC. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a haussé le taux de cotisation. Le but de ça étant de stabiliser la réserve. Ça, j'en dis pas plus là-dessus parce que c'est des questions qu'on va aborder quand on va se pencher sur les questions de financement. Ça va être dans la deuxième partie de la session. Aussi, vous allez voir, on en parle dans le livre, il y a maintenant un processus de consultation publique. Parce que dans le passé, c'était très, très difficile de faire évoluer le régime de rente. Puis on s'est donné un processus. Aux 6 ans, il doit nécessairement y avoir une consultation. Puis tout le monde se fait entendre sur ce qu'ils veulent pour l'avenir de ce régime-là. Là. Donc, ça a été introduit à ce moment-là. Donc, quand même, des dates importantes. Là, maintenant, on va regarder c'est quoi les principales dispositions de ce régime-là. Évidemment, il y a beaucoup d'informations, mais il faut en comprendre la logique générale, sans nécessairement tous les chiffres, toutes les données. Là. Mais avant de se lancer dans ça, on va prendre une petite pause, puis on reprend ça dans une dizaine de minutes.